Mon invité est auteur de biographies, d'essais, de romans. Il a reçu déjà le prix des auteurs protestants francophones pour son roman « En quête de l'infime ». Sa formation en biogéographie, écologie, en lettres modernes et en théologie lui permet de donner des conférences, ce qu'il fera demain le 30 octobre à partir du dernier essai paru « Dieu est-il vert ». Frédéric Baudin, bonjour.
Bonjour.
Frédéric Baudin, vous êtes accompagné du pasteur de l'église Saint-Marc, Sainte-Foy,
oui.
Bernard Vestevelde.
Oui.
Bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci.
Frédéric Baudin, vous intitulez, un de vos essais est intitulé « Dieu est-il vert » ou enfin votre conférence s'intitule « Dieu est-il vert » comme on pourrait demander est-ce que Dieu est-il chrétien ou dans un autre contexte, Dieu est-il mondialiste selon la cause qu'on a envie de défendre. Il y avait quelque chose pour provoquer dans la formulation de votre titre?
Alors, un petit peu, c'est d'ailleurs l'éditeur qui me l'a suggéré, pour être tout à fait franc. Effectivement, il y a le Parti des Verts, je suppose qu'il y a un Parti des Verts ici au Québec, partout dans nos pays maintenant. Et c'était une façon un petit peu provocante, je le reconnais, de poser la question, là aussi de façon un peu abrupte, hein, Dieu est-il vert? Dieu se préoccupe-t-il aussi de la protection de l'environnement?
Est-ce que c'est à Dieu de s'en préoccuper ou aux hommes?
Alors, je pense que les deux peuvent être tout à fait liés. Hein. C'est dans la mesure aussi où notre foi placée en Dieu nous pousse à agir. Les deux vont ensemble. Hein. Avoir foi, c'est aussi agir d'une certaine manière. Et effectivement, nous sommes tenus comme responsables de bien gérer les ressources naturelles qui sont mises à notre disposition par Dieu lui-même, si l'on considère qu'il est le créateur de toutes choses.
Mmh. Vous êtes chrétien, Frédéric Baudin, théologien également. Puis écologiste. Quand est-ce que dans votre vie, vous avez mis les deux réalités ensemble?
Alors effectivement, c'est un long cheminement. J'ai d'abord commencé à travailler dans la recherche agronomique en France, à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Et pendant 2 ans, je travaillais sur des questions de végétation, de protection contre l'incendie, etc. En me demandant au fond quel est le lien précisément entre ma foi et ce que je fais. Et j'avoue que j'avais un petit peu de mal à établir ce lien. Je suis ensuite parti faire.
Je m'excuse, juste une parenthèse. Est-ce que votre questionnement, c'était le lien entre votre foi et le type de travail que vous faisiez ou le contenu du travail que vous faisiez?
Alors, je dirais les deux. Au fond, je n'avais pas compris pour moi une vérité qui me paraît aujourd'hui essentielle, c'est que quoi que nous fassions, hormis le mal, bien évidemment, nous sommes au service de Dieu, là où nous sommes, dans l'activité que nous pratiquons. Donc ça, c'est pour la première subtilité. Et pour le reste, effectivement, d'une manière plus large, je ne faisais pas le lien entre ma foi et ce désir que j'avais de protéger notre environnement. Mmh. Et voilà. Alors, je suis ensuite parti faire mes études de théologie. C'est un souci que j'avais depuis pas mal de temps. Je voulais approfondir dans ce sens, avec une vocation aussi dans l'exercice de ma foi.
Mais que vient faire... Non. Continuez votre histoire de théologie, oui.
Alors, c'est justement en étudiant la théologie que j'ai commencé à faire le lien.
Oui.
Parce que j'ai compris le lien entre un Dieu créateur. Alors, bien sûr, les chrétiens, j'espère en tout cas, croient en un Dieu créateur. C'est le fondement même de notre credo, je crois, en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et là, j'ai fait le lien en approfondissant ma foi dans ces études de théologie avec le travail que je faisais auparavant, cette création dont on est tenu de bien la garder, la protéger, la cultiver et la garder, pour reprendre les verbes forts du livre de la Genèse, par exemple.
Ouais. Dans le sens où vous en parlez, la découverte que vous faites en théologie pour vous donner un regard neuf sur l'écologie, ça va bien. En quoi l'écologie a éclairé votre foi?
Alors, pour moi, ça a été quand même, dès le départ, lorsque j'ai commencé d'abord pour mes études, puis ensuite mon travail, la découverte d'une grande diversité, d'une certaine beauté de la nature. Saint Paul en parle assez couramment, et en particulier dans sa lettre aux Romains. Au fond, la nature dit quelque chose de Dieu. Il y a une sorte d'empreinte de Dieu dans la nature. La nature ne dit pas tout de Dieu, mais elle dit quelque chose, et elle dit quelque chose de Dieu dans ce qu'elle a de beau, de ce qu'elle a de sa diversité, de sa complexité aussi, de ce qu'on ne comprend pas aussi. Et pour moi, ça a été une découverte dans ce sens également.
Frédéric Baudin, dans votre essai « D'un jardin à l'autre », vous invitez les chrétiens à méditer sur un certain plan de la création.
Oui, c'est surtout une méditation sur le thème du jardin dans la Bible. Alors, avec toutes ses acceptions, qu'elles soient très réalistes, le jardin, c'est-à-dire au fond la terre que nous sommes, encore une fois, je le dis, tenus de cultiver et de garder, pour reprendre encore d'autres verbes importants, hein, de dominer et soumettre. Mais on pourrait beaucoup discuter sur ces verbes de la Genèse qui n'ont pas toujours été bien interprétés et encore moins bien mis en pratique. Le souci du jardin terre à terre, si je puis dire, sans faire de mauvais jeu de mots, mais aussi au sens symbolique, hein, le jardin spirituel que nous sommes tenus aussi de cultiver chacun pour notre part.
Qu'est-ce que on n'a pas le temps de traverser les Écritures dans le détail, mais dans les grandes lignes, qu'est-ce que les Écritures nous apprennent sur le rapport que l'homme devrait avoir à la terre, à son milieu?
Alors, je dirais en premier lieu, ce qui apparaît assez clairement, c'est le livre de la Genèse. Ces verbes très forts, hein, multiplier et remplir, dominer, soumettre, cultiver et garder, qui ont été diversement interprétés. Parfois, on s'est beaucoup servi de ces verbes pour justifier une exploitation et même, je dirais, une surexploitation des ressources de notre planète. C'est criant, par exemple, au XIXe siècle, dans la littérature anglaise, on voit assez souvent les références à ces deux verbes, hein, dominer et soumettre. Et c'est une sorte de licence pour exploiter la terre dans tout ce qu'elle nous offre, sans penser finalement qu'il faut aussi une certaine sagesse, une certaine justice, un amour pour les uns les autres.
Est-ce que c'est dans ce sens-là que vous dites jusqu'à un certain point que, historiquement, dans une certaine historicité, on reproche aux chrétiens d'avoir été, je ne dirais pas complice, mais peut-être même cause de la détérioration de la planète?
Alors, en 1967, un article qui est resté assez célèbre dans la revue non moins célèbre Science aux États-Unis a été publié, un article de Lynn White Jr. qui a donc essayé de souligner les rapports entre la foi chrétienne ou la tradition chrétienne et la crise écologique. Les chrétiens, en gros, disait-il, sont responsables de la crise écologique. Et effectivement, on peut aller dans ce sens-là. D'ailleurs, l'essai et l'article est bien construit. C'était un homme convaincu aussi, un chrétien également, avec certaines convictions. Donc, on peut aller dans ce sens-là en soulignant que dans nos pays de tradition chrétienne, on a, je dirais pour le moins, pas fait tout ce qu'on aurait pu faire pour avoir une éthique de la création qui nous retienne un petit peu dans les débordements, dans la surexploitation. Nos pays de tradition chrétienne sont plutôt connus pour cette société de consommation, j'oserais dire de surconsommation, de surproduction dans bien des cas, et d'épuisement des ressources de la planète sans mettre de frein, exploitation sans frein.
Et les tenants de cette responsabilisation, ceux qui pointent du doigt en disant « c'était votre responsabilité », qu'est-ce qu'ils reprochent? C'est que les chrétiens ne se soient pas suffisamment opposés, ou s'ils leur reprochent d'avoir été de ces exploiteurs?
Alors je dirais les deux. Les deux, d'avoir surexploité les ressources et puis de ne pas avoir été parmi ceux, peut-être les tout premiers, qui auraient pu tirer la sonnette d'alarme. Certains l'ont fait. Le penseur calviniste Francis Schaeffer a, par exemple, l'un des premiers, écrit un essai sur ce thème de la protection de l'environnement, la pollution et la mort de l'homme. C'était en 1970 seulement. Donc d'autres avaient déjà écrit dans ce sens-là. Rachel Carson, par exemple, avait écrit en 1960, déjà aux États-Unis, pas sous un prétexte, disons, chrétien, mais d'une façon plus scientifique et classique, déjà tiré la sonnette d'alarme assez fort.
Pour ce que vous en savez, est-ce que les Juifs ou les musulmans ou d'autres sont plus écologiques que les chrétiens?
Alors, c'est une question effectivement que je pose, y compris dans mes conférences. Au fond, les non-chrétiens ont-ils fait mieux ou moins bien? Alors, je crois qu'on est tous un petit peu... Le bilan pourrait être à peu près le même, un bilan mitigé pour l'ensemble de nos civilisations. Si je prends l'exemple, par exemple, des pays orientaux sous influence bouddhiste, shintoïste ou de ces philosophies ou religions orientales, ils sont tombés à peu près dans les mêmes travers que les nôtres. Le Japon ne se porte pas beaucoup mieux du point de vue écologique, bien qu'il y ait à la base un respect de la nature certainement plus fort. Et d'autres pays, pour d'autres raisons, hein, parfois, je pense à l'Afrique animiste ou à d'autres pays hindouistes, etc. Alors pour d'autres raisons, un peu mélangées, la pauvreté par exemple, le manque de moyens pour lutter contre la pollution parce que ça coûte cher, le manque de législation aussi dans certains pays, voilà, tout cela serait à prendre en compte. Mais enfin, d'une manière générale, on pourrait dire que les uns et les autres, nous sommes un peu pris dans le même problème.
par la... Une des causes, disons, de la détérioration que vous pointez jusqu'à un certain point, ce serait l'explosion démographique.
Oui.
Et là, oui, si on regarde la Chine, c'est pas particulièrement chrétien de ce côté-là, et l'explosion démographique y est assez marquée. Pour ceux qui se font défenseurs du croissez et multipliez-vous de la Genèse, qu'est-ce que vous avez à répondre?
Alors, croître et multiplier, bien sûr, c'est la grande injonction biblique qui est adressée d'ailleurs autant aux animaux, c'est intéressant de le souligner, qu'aux hommes et aux femmes. Et c'est remplir la terre avec, dans le projet initial, si je puis dire, être en communion avec Dieu, c'est-à-dire ne pas croître et multiplier pour dominer de façon anarchique ou tyrannique, mais croître et multiplier avec amour, avec sagesse, avec justice. Il y a une éthique derrière cette croissance et cette multiplication. Et je pense que c'est ce que les chrétiens, pour leur part, ont le plus négligé. Alors évidemment, je dirais qu'on a par ailleurs beau jeu de critiquer avec le recul, avec tout ce que l'on sait aujourd'hui, les moyens que l'on a mis en œuvre pour nourrir une population sans cesse croissante. On est tout de même passé de 2 milliards pardon, à 6 milliards d'habitants entre 1930 et 2000, disons. Mm-hmm. Avec une petite étape intermédiaire en 75 à 4 milliards, c'est énorme. Le défi était vraiment difficile à relever, il fallait nourrir cette population sans cesse croissante. Et alors, la critique a donné le concept du développement dit durable, avec une croissance, cette fois-ci, plus mesurée et maîtrisable. C'est toute la difficulté. Alors, du point de vue chrétien et théologique, croître et multiplier, c'est pas forcément dans l'anarchie la plus totale.
Mais la réduction de la croissance telle qu'elle se vit présentement, c'est demander à la médecine de cesser ses recherches sur le prolongement de la vie, c'est demander un contrôle des naissances. Ça va dans quel sens, votre réflexion là-dessus?
Ma réflexion, au fond, c'est toute la définition d'une éthique. Je crois qu'aujourd'hui, on ne prend plus le temps qu'il faut, et il faut du temps, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir exercer notre esprit critique, essayer d'évaluer les choses, de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal, chose qu'on ne se une question qu'on ne se pose pas toujours. Je pense que les impératifs économiques ont malheureusement pris le pas sur les impératifs éthiques, et là, je pense qu'on fait fausse route. Alors, le discours que j'essaye de tenir, c'est de revenir un petit peu à la raison, mais à une raison éclairée aussi par la foi, qui nous permet de mieux distinguer. Alors, je suis très conscient, notamment en tant qu'ancien chercheur, de ce que représentent les limites. Et que lorsqu'on fait de la recherche, on est amené d'une manière ou d'une autre, à franchir certaines limites. Mais on peut le faire avec une certaine sagesse, il me semble. On n'est pas obligé de franchir toutes les limites. Vous savez, aujourd'hui, le grand slogan aujourd'hui que l'on entend, « no limit », pas de limite. Et je pense que cette façon de forcer nos limites, à la fois de la nature et de notre nature aussi humaine, de dépasser toutes les limites, nous conduit dans un mauvais sens. Il y avait dans la Bible un frein qui était posé, je pourrais presque dire par Dieu lui-même, qui est le sabbat, le repos, un jour par semaine. Ça paraît peu de choses, mais dans une économie ancienne du Proche-Orient ancien, c'était quand même toute une affaire de s'arrêter une journée dans une économie précaire. Et ça impliquait la confiance en Dieu, y compris pendant ce jour de repos auquel Dieu pouvait pourvoir.
Est-ce que ce serait une proposition, Frédéric Baudin, que vous feriez, c'est-à-dire l'arrêt, s'il y avait l'arrêt du sabbat, pour nous parlons de l'arrêt du dimanche, qu'on revienne à cette époque où tout était fermé le dimanche, c'était le repos, ce serait un moyen de réguler l'économie et cette explosion, ce développement?
Alors, je vais vous répondre. Vous savez, je suis né en Normandie. Alors, les Normands ont un gros défaut. Ils disent parfois oui et non en même temps.
Allez-y.
Alors, je dirais oui, dans un premier sens, idéalement. Et il faut toujours viser un idéal. Je pensais bien de se fixer un idéal. Idéalement, je pense oui. Il faudrait pouvoir s'arrêter. D'ailleurs, une des maîtresses phrases de Francis Schaeffer, c'est maintenant, arrêtez. Il est temps de prendre son temps. Mm-hmm. Et c'est un appel qu'il lance aux chrétiens en particulier. Et je crois que c'est bien, effectivement, d'arrêter une journée. Alors quand je parle de l'idéal, c'est l'idéal et la réalité. Vous savez que la réalité nous contraint souvent dans un autre sens. C'est tout le discours de Jésus, par exemple, sur le sabbat. Il faut laisser les priorités là où elles sont aussi, soigner les malades quand il faut, et ça oblige certains à travailler. Et voilà, le sabbat absolu est difficile à mettre en œuvre. Mais comme principe, je pense qu'on devrait le mettre en valeur. Et pour cette raison, je pense que ce serait bien de s'arrêter. C'est un bon principe.
Frédéric Bonnet, qu'est-ce que c'est que Arrocha, un organisme dont vous êtes le cofondateur en France, pour, tout au moins?
Oui, alors,
le fondateur peut-être en France?
Pour la France, je suis l'un des principaux fondateurs. C'est moi qui ai lancé l'association française. Mais l'association remonte un petit peu plus loin. Elle a été créée par un pasteur anglican de l'église anglicane donc d'Angleterre en 1983, Peter Harris, avec un de ses collègues éminents, John Stott, qui est bien connu dans les milieux protestants. Et ils ont donc lancé ce mouvement de protection de l'environnement dans une perspective chrétienne, avec deux objectifs. L'un, c'est de créer des centres d'accueil et de recherche pour des chercheurs scientifiques dans des milieux sensibles. Et Peter Harris a eu la bonne idée d'aller dans le sud de l'Algarve, au Portugal. Et il s'est installé là sur la côte, près d'un estuaire menacé, menacé par les aérodromes qu'on construit, par les golfs qu'on construit aussi en grande quantité dans le sud du Portugal, où beaucoup d'Anglais se trouvaient. Et il a fondé cette association Arrocha, qui en portugais signifie le rocher. En fait, c'est le nom du lieu où il se trouvait, tout simplement. Et deux aspects, donc recherche scientifique sur des milieux sensibles. Il fait venir des chercheurs du monde entier qui passent par ce réseau. Et puis autre volet, celui de la sensibilisation, d'abord auprès des chrétiens pour leur faire prendre conscience qu'il faut effectivement protéger l'environnement. Ça fait partie du mandat que Dieu nous adresse d'une certaine manière, mais aussi accueil pour les écoles, pour les touristes, pour tous ceux qui veulent essayer d'en apprendre davantage sur les questions de protection de l'environnement.
Je trouve toujours ça curieux quand vous faites cette allusion de sensibiliser les chrétiens plutôt que de sensibiliser le monde en général.
Alors, il est évident que je ne fais aucune distinction dans l'absolu, mais voilà, chacun un peu à sa vocation. Arrocha a une vocation particulière vis-à-vis des chrétiens, avec le souci d'enseigner les chrétiens dans ce sens, chose qui n'a pas été faite pendant longtemps. Mm-hmm. Aujourd'hui, les grandes églises se sont longtemps réunies au XXe siècle lors des grandes rencontres œcuméniques, avec sur le thème, par exemple, justice, paix, sauvegarde de la création, sous l'impulsion du physicien allemand von Weizsäcker, mais c'est resté très théorique, une réflexion théologique de haut niveau, mais qui n'est pas tellement descendue dans les paroisses ni auprès des fidèles. C'est la mission d'Arrocha pratiquement, justement, d'être plus pratique, plus proche des gens, de rejoindre les gens sur le terrain.
Ce plan en France, votre projet à vous, les Français, quel est-il?
Alors nous sommes installés dans le midi de la France, dans une région très riche sur le plan biologique, c'est dans la vallée des Baux-de-Provence, c'est une très 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 belle région, la Camargue, la vallée des Baux-de-Provence, les Baux-de-Provence. Une région aussi très menacée qui a été drainée à outrance pour la vallée des Baux-de-Provence.
Par quoi?
Pour l'agriculture. C'est à des fins agricoles. Jusqu'en 1960, on a drainé à des fins agricoles. Et il se trouve que l'agriculture dans cette zone n'est pas très rentable. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes à la suite de ces drainages intensifs, notamment d'inondations majeures avec le débordement du Rhône. Et on sait très bien que les zones humides, non seulement sont très riches sur le plan biologique, mais qu'elles servent aussi de vases d'expansion en cas de catastrophe naturelle. Lorsque le Rhône déborde, par exemple, eh bien, c'était des terres qui étaient inondables et qui pouvaient absorber une partie de ces inondations sans provoquer d'autres malheurs. Alors, on essaye de faire valoir un petit peu tout cela. On a passé des contrats, parfois uniquement sur le plan moral, mais parfois aussi très pratique, avec les agriculteurs, avec les éleveurs. On a été choisi comme association par les pouvoirs publics également pour bâtir tout un projet de concertation avec les chasseurs, les pêcheurs, les touristes, les promeneurs, etc., etc. Et c'est un projet qui est devenu tout à fait intéressant là, sur l'ensemble de cette vallée. Alors, on ne peut pas tout faire, on s'est concentré sur cette vallée des Baux-de-Provence.
Et il y a, outre ces ententes avec tous ces organismes dont vous parlez, il y a des gestes concrets qui ont été posés, il y a des restaurations de territoire qui
À la faveur de grandes inondations en 2003, certains agriculteurs ont été très sensibilisés. D'abord, leurs terres ont été inondées. Ils ont vu se réinstaller notamment des populations d'oiseaux qu'ils n'avaient pas vues depuis très longtemps, toute une diversité qui est revenue assez rapidement, de façon pratiquement en une saison très surprenante. Et ils ont décidé, pour certains d'entre eux, un petit nombre, de réhabiliter ces zones humides. Et ils ont donc laissé Arrocha piloter ce projet de remise en eau et de contrôle d'une gestion de la biodiversité.
Oui. Si dans le plan divin, Dieu a donné à l'homme la gérance de ce grand domaine ou de ce grand jardin, est-ce qu'on doit faire le constat qu'il a été un très mauvais gérant et qu'il mériterait d'être remplacé?
Vous parlez de l'homme ?
Oui.
Alors, vous savez qu'il y a tout un courant de la fameuse deep ecology hein, qui considère que les mesures de protection de la nature sont jugées trop superficielles, en tout cas par ce courant. Et ils vont jusqu'à dire qu'il faudrait changer totalement de paradigme, remplacer l'anthropocentrisme classique par un biocentrisme, mettre la vie dans toute sa diversité au centre. Bon, ça peut être défendable d'une certaine manière, mais ils vont jusqu'au point de dire qu'au fond, si l'homme disparaissait, la Terre s'en porterait d'autant mieux et la diversité aussi, puisqu'il est la principale cause de ces disparitions, des désordres occasionnés sur la planète. Alors voilà, moi je pense que là on peut se distinguer aussi en tant que chrétien. Nous pensons que l'homme et la femme ont été choisis par Dieu, c'est une vocation, un appel pour bien gérer cette création. Ils ont un rôle essentiel avec sagesse, avec amour, avec justice. Ces termes pèsent très très fort, je trouve, dans la mission qui nous est confiée. Et je pense qu'effectivement, si l'homme a pu se rendre responsable d'une mauvaise gestion, il peut faire mieux. Et c'est encore possible. Mmh.
La plupart des politiciens dans divers pays, probablement le vôtre comme le nôtre, ont récupéré une expression qui est le développement durable. À tort et à travers, on lui donne tous les sens. Mais pour vous, est-ce que le développement durable, c'est une des principales solutions?
Alors, d'abord, qu'est-ce que le développement durable?
Il ne faut pas demander aux politiciens de le définir. Je vous le demande à vous.
De trouver des solutions industrielles, agricoles, urbaines, qui nuisent le moins possible à l'environnement, qui permettent d'abriter et de nourrir au mieux le plus grand nombre d'individus. Et cela, nous dit-on, sans freiner le progrès, qu'il soit économique, scientifique, social, humain, etc. Alors c'est un très beau projet. Encore une fois, on rejoint l'idée de l'idéal et de la réalité. Et je crois que c'est bien de se fixer cet idéal d'un monde qui est en mouvement, qui est en croissance. On ne peut pas l'éviter. C'est quand même, ne serait-ce que la croissance démographique qu'il faut gérer. Et voilà, il faut que la croissance fait partie de la vie. Mmh. C'est un monde en mouvement. En même temps, avec les impératifs qui nous sont posés aujourd'hui, de maîtriser davantage nos moyens de production, de distribution, de trouver toutes ces solutions. On est parfois face un peu à la quadrature du cercle, à une mission impossible lorsque l'on veut contenter tout le monde. Je pense que, alors deux choses. D'abord, je pense que l'un des problèmes qui se pose pour nous, c'est encore une fois de franchir les limites du raisonnable. C'est-à-dire que lorsque la recherche du profit, notamment le profit le plus immédiat, prime sur justement la bonne gestion équilibrée des choses, eh bien nous passons des limites qui sont dangereuses. Le profit est légitime, hein, et encore une fois, je ne suis pas un apôtre de la décroissance, par exemple. Hein. Il y a tout un mouvement qui va dans ce sens, le Club de Rome, etc. Ce n'est pas tout à fait ma conviction. Je pense qu'on peut penser en termes de croissance, mais de croissance raisonnable. Sachant que l'écologie ou nos meilleurs moyens pour gérer la création, ce n'est pas la panacée non plus. Hein. Le mal est une réalité de ce monde, et je crois profondément en la restauration de ce monde aussi par Dieu lui-même. C'est la grande promesse, c'est notre espérance chrétienne.
Dans sa mauvaise gérance de la Terre, de la planète, de son jardin, est-ce que un des reproches qu'on pourrait le plus faire aux humains, c'est la mauvaise redistribution de la richesse?
Oui, il y a quelque chose d'un peu scandaleux lorsqu'on estime que 80% des ressources, en gros, sont utilisées, consommées par 20% de la planète. Il y a là une injustice flagrante et je pense que l'on doit, surtout en tant que chrétien, essayer de corriger, de combattre. Et nous avons un certain nombre de moyens à notre portée, alors parfois qui paraissent un peu dérisoires à l'échelle individuelle. Hein, parrainer un enfant, c'est peu de choses. Promouvoir le commerce équitable, rémunérer davantage les artisans des pays du Sud, tout cela. Mais ça fait partie d'une démarche responsable. Je pense beaucoup à ce couple liberté-responsabilité. Au fond, nous avons une grande liberté sur cette terre, mais cette liberté s'accompagne d'une responsabilité et elle est accrue, si je puis dire, d'une certaine manière en tant que chrétien.
Frédéric Baudin, vous avez quelques réserves à l'endroit des courants dits « nouvel âge ».
Oui, parce que j'estime que leur façon de concevoir, disons, l'écologie rejoint la philosophie orientale. Au fond, c'est un courant très panthéiste qui considère que Dieu est dans la nature et en toute chose, ce qui, à mon sens, se distingue très nettement de la théologie chrétienne, où Dieu est radicalement différent de la création. C'est le tout autre, notre vis-à-vis ultime, et qui ne se confond pas avec la nature. Ceci dit, ça nous pousse justement d'autant mieux à vivre dans cette communion, cette alliance avec Dieu, avec un vis-à-vis qui nous conduit à prendre soin. J'aime bien l'expression « prendre soin de la planète ». Ça rejoint le « dominer » en hébreu, nous introduit dans cette dimension du « prendre soin ».
Bernard Versevel,
oui.
C'est vous qui, c'est votre église qui cautionne ou qui patronne ou qui a invité.
Invité, oui. Moi, on a invité M. Baudin à venir. Il est d'abord venu à Montréal avec l'église réformée Saint-Jean de Montréal. Puis on nous a dit qu'on peut aussi l'inviter pour venir ici à Québec dans une conférence. Ce soir, c'est surtout pour les croyants à notre église et pour la communauté chrétienne. Puis demain, on l'a fait avec l'Université Laval, avec le bureau d'animation religieuse.
Il y a deux conférences demain, je pense, à l'Université Laval.
Oui, c'est la même conférence qu'on donne deux fois, ouais. Simplement pour rejoindre le plus grand nombre de monde.
C'est au pavillon de Conin.
C'est ça.
Ce sont des conférences gratuites, bien sûr.
Oh, oui, certainement.
En milieu universitaire.
Oui.
Dans votre église, ce soir, c'est la salle de conférence, ce sera votre église, Saint-Marc,
oui.
Sur le chemin des Quatre-Bourgeois.
Oui, exactement, ouais. C'est ça, en face de l'hôpital Laval.
Oui. Outre vos fidèles, tout le monde peut y aller?
Tout le monde peut y aller, oui, oui, certainement. Ouais. Tout le monde est invité. J'ai fait, dans le réseau des églises dans la région de Québec, j'ai fait l'annonce. Mm-hmm. Donc, tout le monde est invité pour venir écouter M. Baudin.
Bernard Versevel, merci de cette initiative et Frédéric Baudin, merci
plaisir.
D'être venu chez nous.
Merci à vous.
Merci.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire. Un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance. À pas sûr, à pas lent, c'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance, c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte, c'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout, un poisson, un geste. C'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste, c'est du bois, c'est un jour le bout du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court, c'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies. C'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. C'est Jacques, un serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond. Et peine, et on finit de camille, et on reste dit toc, et on peut que sosigne. Par une pierre, chemin qui chemine, reste de racine.